7h
de l'après-midi.
Les 17h.
Le spectacle va commencer. Et ce spectacle est unique.
Principe actif.
Un spectacle enfin digne de l'univers.
Ça sera un spectacle, crois-moi.
Inutile de retenir vos places. Vous serez tous en première loge. Sensationnel, formidable. Ça me rappelle ma jeunesse.
Ça commence bien.
Et le spectacle continue.
Bienvenue pour un nouveau numéro de l'émission Et le spectacle continue, qui sera consacré aujourd'hui au Fantaz Show, une sorte de cabaret avec des invités prestige et surprise. Pour ceux et celles qui aiment tout prévoir, attention au vertige. Fantaz Show, c'est une carte blanche à l'artiste iconoclaste Fantasio, chanteur et contrebassiste, entre autres, que je suis depuis une vingtaine d'années. Il était accompagné ce soir-là par Yann Joussin au synthé modulaire et sampleur, Bianca Iannuzzi à la voix et Denis Charolle à la batterie, accessoires et trombone.
Et le spectacle continue.
On écoute à présent des bouts d'interviews et captations de concerts enregistrés le lundi 22 décembre 2025 au Cirque Électrique dans le 20e arrondissement de Paris.
Alors, cette interview, Philippe.
Encore une.
Je l'attends depuis très longtemps.
C'est vrai?
Interview, bah oui. Bah, je sais que toi, tu dois collectionner, peut-être maintenant, on en est peut-être à 30 ou 40 interviews, quoi. Hein,
c'est pas impossible.
Ouais. Tu lâches pas l'affaire, hein. Bah, t'es un vrai pitbull, quoi. Quand tu mords le mollet gauche de Poséidon, tu le lâches pas, quoi.
En même temps, c'est tellement un renouvellement permanent chez toi, Fantasio, que c'est compliqué de dire, bah, c'est fini. Non, c'est jamais fini, en fait.
Ouais, bah, le renouvellement, ça vient de la saveur de la terreur, quoi. C'est grâce à la terreur qu'on est, on est acculé à se transformer. Pour pas être terrifié, il faut se transformer. Enfin voilà, c'est ma morale à moi.
Très bien. Fantasio, peut-être qu'on peut mettre dans le contexte où on est exactement.
Alors, on est au Cirque Électrique Porte des Lilas, place du Maquis du Vercors. C'est un très beau nom. On est au-dessus du périphérique. Donc a priori, un endroit dont on n'attend rien, le périphérique. Et alors, le Cirque Électrique, je suis venu parce que j'avais plus de boulot. Et je suis venu voir le patron et je lui ai dit, est-ce que je peux bosser là, faire n'importe quoi, quitte à bosser au bar, machin. Il m'a dit, non, les lundis, il se passe rien, il s'y prend les lundis. Donc je m'imaginais jouer dans un petit coin et faire mes petits spectacles un peu schizophréniques. Mais vu que le lieu est immense, c'est un nouveau lieu qu'ils viennent de racheter à la compagnie Dromesco, une vieille compagnie de cirque de la banlieue de Rennes. Je me suis plus vu en train de faire mon petit machin tout seul et j'ai convié à chaque fois des personnes. Donc Denis Charolle et Bianca Iannuzzi qui sont venus. Maintenant, c'est la troisième fois avec eux. Voilà. Donc la première fois, il y avait 12 personnes. La deuxième fois, 32 ou à peu près. Et là, c'est la première fois que ça prend un peu, quoi.
Là, voilà. C'était complètement rempli. Alors, il faut dire, il y a le Cirque Électrique, il y a le Grand Chapiteau, et là, on est dans l'endroit qui est un petit peu plus intime.
Cirque Électrique, tu pourras demander à Hervé tout à l'heure, le patron, mais donc il s'occupe d'une école de cirque, donc vraiment, c'est un lieu local pour les gamins du quartier qui font du cirque. Un chapiteau où ils font des spectacles assez populaires, du cabaret populaire. Et ici, c'est le nouveau parquet de balles où il se passe des choses très variées, quoi.
Alors le patron,
Hervé Vallée, ouais.
Ça fait longtemps, je crois, que tu le connais, non?
On s'est connu en 93, quand je revenais de Chine. Et il m'a dit, attends, je vais l'appeler. Alors on va aller par là-bas. Hervé, viens, on va par là-bas. On en était en 1993, je reviens de Pékin.
On s'est rencontrés chez un tatoueur, Christian.
Ah voilà, j'avais oublié
ça. Tu es allé te faire tatouer et nous on emmenait... Bah, je peux pas dire son prénom, parce que elle venait des Ducky Boys.
Ouais.
Tu vois, les Ducky Boys,
c'était
les chasseurs de ski. Et donc, elle allait se faire tatouer. Et donc, nous, on l'amenait pour se faire tatouer, machin, avec ma chérie de l'époque, Estelle. Et donc, là, on se rencontre avec Fantasio, qui revient de Chine, qui nous raconte tout son périple et tout ça. Et puis, moi, je lui dis, mais viens au cirque. C'est un endroit qui est safe, en fait. C'est des endroits safe, les cirques, c'est ça qui est chouette.
Ouais,
des endroits qui sont pas violents.
C'est-à-dire, ah ouais. Moi, je revenais d'un an en Chine où j'ai vu des trucs très 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 violents 3 ans après Tiananmen. Et j'étais dans un drôle d'état, complètement largué. Je faisais pas vraiment encore de musique, je jouais, je faisais la manche dans le métro, dans les terrasses, quoi, tu vois. Il m'a hébergé dans son appart à Nanterre et j'avais besoin d'un abri, en fait, tu vois.
C'était aux provinces françaises, c'était des HLM qui n'existent plus. C'était des HLM qui ont été détruits. C'est carrément dingue, on est retourné, en fait. Putain, mais on habitait là, en fait. Eh ben non.
J'avais besoin d'un lieu où traîner parce que moi, avant, je traînais dans la rue. Et j'étais complètement largué, j'allais pas bien psychiquement parlant, quoi. Donc Hervé, ça m'a fait un abri avec sa chérie. Ils m'ont vraiment accueilli, recueilli, quoi. Voilà.
Et moi, j'ai un truc stable, j'ai cette passion du cirque, en fait. Un rêve de cirque depuis que je suis gosse. Depuis que je suis enfant, c'est vraiment un rêve qui est réalisé. Moi, je disais à mes parents, aux amis de mes parents, je veux faire la contrebasse dans un cirque. Donc ouais, ce rêve
à l'époque où il n'y avait que des cirques traditionnels, on peut dire,
quand on était petit.
Donc moi j'étais fan du cirque Grus et l'odeur, je ne sais pas si tu vois ça, l'odeur du sable mouillé avec le bruit du fouet et des mecs qui fouettaient, tu vois, c'est ce truc de fouet, d'odeur de sable mouillé. Quand tu rentrais sous un chapiteau, Grus, c'était un peu la splendeur de Grus. Et j'avais eu un traumatisme avec l'affiche d'Elephant Man, qui était un monstre de foire un peu. Donc c'était mes débuts du lien avec le spectacle. Moi, je faisais le clown devant mes parents avant que ma mère meure en 82. Je me déguisais en clown et je les forçais à me regarder faisant le clown. C'était nul à chier, mais je les forçais à le faire. Et donc Hervé, par d'autres biais, il avait ce truc-là, enfantin, une sorte de vraiment de vrai rêve enfantin. Donc on s'est retrouvé autour du cirque, mais moi j'ai essayé de faire du trapèze, de l'acrobatie, j'étais pas très bon. Puis je pensais, j'étais trop cérébral pour faire ça. Et Hervé, il était très pratique. Et il a appris auprès de Michel Novak comment planter des piquets, être présent, se rendre utile, croiser des gens, donner des missions à des gens qui arrivent, tu vois.
Oui, et puis faire du spectacle, en fait, c'est vraiment, tu fais le spectacle. Donc après, on a fait des cabarets, t'es dans, c'est comme faire le spectacle, c'est comme faire politique, en fait. C'est vraiment, c'est...
On fabrique sur le moment. Qu'il y ait du public ou pas, on s'en fout. Et alors, je me souviens, il m'avait fait faire un numéro avec une housse de contrebasse où je mettais mon bras dans la housse. Et je pliais le bras et ça faisait comme une sorte de diplodocus malade, comme ça, quoi.
Il te chiait des balles.
Ah voilà, ouais.
C'était ça.
Et je chiais des
balles pour le jongleur. C'est Vincent.
Ouais. Ça, le jonglage, pour moi, c'était ric-rac, quoi.
En fait, il faut toujours retrouver une assurance par rapport au spectacle. Et le cirque, c'est assez chouette parce que tu joues tout le temps. Tu joues. Donc t'as pas ce... Tu vois... T'as pas
cette séparation, répétition, comme dans le théâtre, comme dans le sport, comme je sais pas quoi.
Après, c'est ce qu'ils essayent de faire, de transformer le cirque, tu vois, de le... Je sais pas si c'est de l'intellectualiser, parce que c'est un truc très... c'est très physique, en fait, quelqu'un qui fait un numéro...
Physique et assez bébé.
Ouais, il y a un petit côté enfantin, tu te marres, en fait.
Continue le truc physique, c'est intéressant ça.
Moi, c'est pas ça
le truc physique.
C'est physique dans le sens où tu ta répétition, en fait, c'est chaque jour, t'entretiens quelque chose. T'entretiens quelque chose et comme quelqu'un ferait des gammes, sauf que les gammes, elles doivent servir à quelque chose. Là, ton corps, il va servir autant à monter le chapiteau que à faire un numéro. Donc tout devient physique, en fait. Mais avec tout le monde. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est tous les rapports sont carrément hors normes, en fait. Tu vois, c'est pour ça que tout le monde est accepté dans le cirque. Et ça, c'est hyper intense. C'est des mondes qui sont complètement particuliers, qui n'ont jamais été repris par un système. Ça marche pas.
Oui, et puis même, tu peux dire que même à l'époque, moi, quand j'étais petit, il y avait encore une femme très, très grosse de 175 kilos qu'on montrait à la Foire du Trône, Rita la Grosse. C'était la fin des monstres. Il y a eu des lois après pour arrêter d'exhiber les gens déformés. Mais les gens déformés, si tu les montres pas avant qu'il y ait Instagram ou maintenant tu vois des gens déformés, parce que l'Instagram, c'est une sorte de cirque numérique abominable, à distance. L'abominable, c'est la distance. C'est-à-dire que on regarde le monde à distance qui vient pleuvoir dans ta poche. Tu as de la pluie du monde en pixels qui vient de faire des giclées... de monde dans la poche, mais à distance. Bon, le cirque, c'est une présence, et tous ces gens déformés, on les intégrait, ce que tu dis.
Ah oui, t'as le droit.
T'as le droit d'intégrer les tarés, les débiles.
C'est toutes les religions différentes, les sexualités différentes. C'est un monde à part entière.
Ouais. Mais pas non plus dans l'ouverture à la France Culture, quoi. C'est pas non plus. Faut aussi une forme de discipline. Faut pas accepter non plus n'importe qui, comme tout à l'heure avant qu'on joue. Il y a un gars habillé en artiste fin 19e qui me dit « Est-ce que c'est open ce soir ?» Je dis « Non, c'est pas open du tout. »
Non, t'as une rigueur. Non.
Voilà, t'as quand même une rigueur, quoi. C'est-à-dire ce truc où on est tous frères, qui a été rabâché par une gauche hypocrite et qui a fait la montée des fascismes actuels, qui a contribué à la montée des fascismes. C'est une sorte d'ouverture totale. Et en fait, les gens d'extrême droite se sont dit, ont confondu mondialisation, ouverture au cœur ouvert au monde entier, c'est-à-dire on perd nos racines, on perd nos régionalismes, on perd nos traditions familiales, et en plus on se la joue, on est tous frères. On peut comprendre que ça fait que de l'hypocrisie sans rigueur fasse monter des fascismes comme
moi,
ça.
Moi j'aime bien des slogans anarchistes, pas de patrie, pas de famille. Tu vois,
pas de famille pour en retrouver.
On a une famille, c'est déjà hyper complexe. Donc tu vas pas faire, tiens, c'est mon frère, c'est mon machin. Non, c'est bon. C'est suffisant en fait ce qu'on a déjà comme famille. Faut réinventer.
On a des familles dysfonctionnelles.
On est des camarades, on invente d'autres mondes en fait.
Par exemple, le mouvement punk, les gens qui traînaient dans la rue, c'était à 90%, je l'ai constaté, hein, des gens qui avaient des familles dysfonctionnelles. Une mère qui partait à l'HP, un père violent, des divorces, des assassinats, des divorces mal digérés. C'était des gens qui avaient des troubles interfamiliaux. Ce qui n'était pas le cas d'Hervé, hein, je crois.
Non, moi, mes parents ils ont toujours été
très soudés.
C'est les 68 ans.
Très soudés.
Ils ont toujours été proche de nous et en même temps avec une pensée constante sur l'actualité, sur
mais pas possessif. Tes parents n'étaient pas possessifs.
Non. Ouais, puis on est tous différents en fait.
Ouais, dans la fratrie.
Frangin,
t'as une drôle de famille. Pour moi, elle est très exotique ta famille. Moi, je comprenais que les familles dysfonctionnelles. Quoi.
J'ai 45 cousins, tu vois.
Ah ouais, c'est
tu vois, 45 cousins, ma mère, c'est fils de paysans. Ma mère, c'est 12 enfants. Mes 12 enfants, et comme le grand-père était c'était un résistant, très ouvert, très...
Agriculteur,
ouais. qui avait des mains énormes, mais tout d'un coup, il y avait trois journaux, systématiquement, chaque jour, dans la famille, et tout ça. Donc ça discute tout
comment
le temps,
ça,
en fait.
Ils achetaient toujours trois journaux.
Ça discute tout le temps.
C'était pas des cocos. C'était pas coco.
C'est à l'époque, c'est des coco cato quoi.
À cato.
Cato. Coco cato.
Témoignage chrétien.
Témoignage
chrétien, c'est hyper intéressant. On n'en parle pas assez. Parce qu'en fait, à mon sens, Charlie Hebdo et les mecs qui se sont joués athées, c'est aussi un truc qui a fait monter un peu des formes de fascisme. Tu vois, le truc de l'athée, à tout prix, on encule les religions, on encule les curés, machin. Et les chrétiens de gauche, c'est un truc très particulier.
Ils sont plus ouverts. Il y a une vraie ouverture, ouais, en fait, sur le monde.
Ouais. Ouais. Là, une curiosité,
Évidemment, forcément, t'as quelqu'un musulman, tu vas me faire, tiens, on a du jambon.
On a opposé les cathos de gauche et l'extrême droite. Dès qu'on laisse un appel d'air, l'extrême de tout temps, à la fin du 19e et plusieurs fins de l'histoire, c'est l'extrême droite qui reprend la chrétienté. Et à chaque fois, il y a des mouvements comme le MRP, qui a été fondé par Francis Queguet. C'est des mouvements qui ont été créés souvent pour rapatrier la chrétienté vers des idées humanistes, quoi. C'est-à-dire toute forme humaine. C'est pas de l'humanisme bisounours, comme disent les gens d'extrême droite. C'est-à-dire que toute forme humaine est étrange et a droit de cité, quoi. Toute forme humaine, comme toute plante, toute fleur et tout. Et c'est ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui, c'est-à-dire ce besoin de désigner un ennemi, comme dans tous les moments de crise gigantesque, on désigne un ennemi. Mais l'ennemi, on ne sait pas qui c'est, en fait. C'est pas clair, en fait. Quand toi, tu es parano et qu'il y a un mec que tu sens pas, c'est un mec que tu sens pas, mais tu peux pas dire cette famille d'Arabes, cette famille de Chinois vont tous nous niquer la gueule, quoi. Et cette peur de l'envahissement, ça part toujours de cette peur de l'envahissement, quoi. D'être noyé par un envahissement généré par les autres, quoi. Enfin, c'est mon... C'est ma... c'est, en tout cas, ce schéma-là est récurrent. On va se faire envahir. le truc du grand remplacement, c'est pas nouveau en fait. C'est, on va être noyé par un truc qui nous dépasse, quoi. Et alors que c'est pas ni être noyé, ni prendre le dessus, c'est ni dominer les autres, ni être dominé, quoi. Enfin bon, bref, là je dérive un peu. Peut-être que je ne sais pas du tout à propos, parce qu'on parlait de musique à la base.
Justement, en parlant de dérive, je discutais avec le public et on essayait de définir ce que tu fais, Fantasio. À la base, c'est rockabilly, peut-être, un peu.
Rockabilly.
Ouais. Et moi, je disais, mais c'est un peu à la dérive aussi, parfois. Ça, on sait pas où on va. Et c'est bien, c'est super.
En fait, oui, moi, je suis pas musicien. J'ai jamais rien compris. Enfin, on m'a jamais mis au conservatoire, très, très peu. Et oui, c'est un dérivé. Pour moi, le rockabilly, ce que j'en retiendrai, c'est que d'abord, c'était un truc d'américain. C'était vu comme un truc d'américain facho, pour les gens qui aiment bien, tu vois, caricaturer les choses, quoi. C'était une musique d'américain blanc, quoi. Contrairement au blues, à la soul, etc. Moi, je me suis mis à faire du rockabilly parce que la main des mecs qui jouaient de la contrebasse rebondissait, ça faisait des rebonds. Ils avaient des scotchs aux doigts. C'était des groupes d'anglais dans les années 80 qui faisaient du rockabilly rapide. Ils avaient du scotch aux doigts et leurs mains rebondissaient. C'est que pour ça que je kiffais. Le reste, j'en avais rien à foutre, quoi. Une main qui rebondit, mais comme quand tu vois des Chinois faire des crêpes ou des pâtes et que leur main, elle va à toute vitesse, quoi. Et que tu comprends pas que leur main va à toute vitesse, c'est qu'à force de faire le même mouvement, il y a une dextérité comme ça qui s'installe, quoi. Voilà, pour moi, c'était ça.
Et ça t'a amené donc à la contrebasse ?
À la contrebasse, c'est ma grand-mère qui m'en a acheté une. Elle m'a dit, tu veux faire quel instrument ? Et je lui ai dit ça. Tu t'en vas au Sgur ou pas?
Mais j'avais très envie de te voir juste fumer une cigarette. Vas-y, vas-y, carrément.
Ouais.
Je vais sortir fumer.
Ouais,
je te laisse parler. Parce que moi, quand je commence à parler, Philippe, je peux dérouler. Hein.
Mais
je peux redérouler sur
tu
beaucoup
peux dire
de choses.
Sur mon rapport au chamanisme.
Mais attends, déjà là, attends, si je peux parler, au fait, là, pour le coup, là, si je racontais l'histoire, il parlait du lien avec le chamanisme. Là, ce qu'on a ressenti, ce qui s'est passé, il y a quelque chose qui pulse, qui vient pulser directement dans des espaces intérieurs et qui font complètement se mettre en mouvement collectivement. Une sorte de transe, en fait. On a vraiment, il y a quelque chose de l'ordre, et c'est assez puissant, et à quel point ça vient toucher de manière juste des espaces qui viennent certes mettre les corps en mouvement, ça vient faire danser, mais ça emmène dans des endroits qui sont en même temps d'une douceur, d'une profondeur, vraiment des étages et des étages, et des. C'était archi. Il m'a emmené là-dedans.
Fantasio,
ouais,
voilà.
T'as eu un peu Osgur, t'as vu?
Oui, oui.
Elle est géniale en interview. Ouais. Yann, tu veux dire un mot?
Toi, Yann, c'était plutôt côté bidouillage électronique, j'aurais dit, non?
Synthétiseur modulaire et sampleur.
Voilà, avec prise en temps réel du tempo, j'ai l'impression que c'était pris au vol.
Le tempo, je le jouais à la main, hein, parce que là, c'était en mode jam, là.
Oui, voilà, j'ai entendu que ça matchait bien avec la batterie de Denis Charolles.
Bah oui, j'ai fait le bassiste en fait un peu, hein, à certains moments, ouais.
Et puis on a terminé avec un moment de trans collective un peu.
Bah ouais, tout le monde s'est mis à danser d'un seul coup, donc ça a changé l'énergie là. Ouais.
Et comment tu t'es retrouvé dans l'aventure avec Fantasio, Bianca, Denis?
Bah ça fait assez longtemps que je connais Fantasio, mais on a très peu joué ensemble. Et depuis quelques années, on s'appelle des fois, tiens, tu pourrais faire ça, mais à chaque fois, on n'est pas libre l'un et l'autre.
Et puis là, le lundi.
Et là, cette fois-ci, ça marchait, voilà. Du coup, mais en même temps, je ne savais pas ce qu'on allait faire. C'était vraiment.
C'est un peu le principe de ce fantage show.
Ben, j'ai l'impression, ouais. Ouais.
Et toi, tu fais quoi en dehors de cette jam?
Moi, je suis batteur normalement. Je joue aussi de l'électronique comme ça. J'ai un solo, batterie et ces machines-là. Ça s'appelle Keep the Bastard Honest. Et je fais partie d'un collectif qui s'appelle Coax, qui est basé à Paris, en région parisienne.
Et je connais Coax, oui, c'est un peu du jazz, un peu bruitiste, non?
Il y a pas mal d'esthétique à l'intérieur, il y a une démarche de musique expérimentale globalement. Oui, il peut y avoir du jazz expérimental, de la musique improvisée, de la musique électronique, de la noise, voilà, c'est assez large.
J'ai entendu un guitariste, je ne sais plus son nom, Julien Duprès, quelque chose comme
ça. Ouais. Ouais, oui.
Il fait partie du collectif également. Mmh. Merci à toi, Yann. Voilà, nous sommes toujours avec Fantasio. Alors, ouais. Fantasio, mais même en même temps, le nom du projet, c'est Fantas Show.
Ouais, Fantas Show, parce que j'invite du monde. Mais là, en fait, finalement, je te dis, il y a Denis et Bianca qui viennent à chaque fois. Donc, bon, quoi, je sais pas comment dire. Je les ai invités, et puis après, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi. C'est ce que je disais à Yann. Il me dit, toi, tu mords le mollet, tu lâches pas. Il me dit, mais c'est toi qui lâches pas. Et j'ai dit, mais moi, si je lâche pas, c'est parce que tu lâches pas. Et l'autre va dire, mais je lâche pas parce que lui fait ça, il lui fait ça. Donc l'idée, c'est que ça vient tourner comme des mécaniques un peu de transe, quoi, qui sont pas magiques, hein, qui sont très, très concrètes. Les rebouteux, c'est très concret, les mecs qui... Je te dis pas qu'on est rebouteux, qu'on soigne les gens, hein. Mais souvent, on met dans un... on utilise des termes de supérieur pour parler de la magie. La magie... on la voit pas parce qu'il y a des accumulations de couches de rationalité. En fait, la magie, c'est juste la vie de base, quoi. Tu vois. Donc voilà, là, en fait, on fait du son à plusieurs. On se doute pas de ce qui va se passer. Ce soir, ça a pris.
C'est ma super copine d'Argentine.
Qui ça?
Marie-Jo. Ah. Marie-Jo, cette amie qui vient de partir. Mmh. Elle a perdu sa mère il y a 2 semaines.
C'est vrai?
Ouais, il y a 2 semaines. Et c'est vraiment nos mères, elles ont les mêmes histoires. Sa mère en Argentine, Marie-Jo, elle est née à 6 mois sous la torture. Sa mère, elle ne devait même pas survivre. Elle
avait... T'enregistres toujours ou pas?
Non, mais je ne garderai pas un montage.
Bah si, justement, c'est ça qu'il faut garder.
Ah, mais je sais pas, moi.
La mort, les assassinats.
Ouais, mais là, et là pour le coup, c'est une personne qui est tellement dans l'ultra-vie. Elle est dans l'ultra-vie alors qu'elle est née, Philippe, elle est née. Elle avait 6 mois dans le ventre de sa mère. Sa mère a été torturée. Ils ont été laissés pour morts. Ils ont réussi à être... Est-ce que ça t'encombre, ça, ou pas?
Non, non.
Ok. Pas. Et nos mères, elles se sont rencontrées en 1987, en France. Ma mère, elle a les mêmes histoires en Turquie. Et sa mère, elle est morte il y a 2 semaines. Et on était au Père Lachaise, et après, il y avait une grande fête dans leur maison à Vitry. Et on a été des amis du temps, en fait. On se connaît depuis qu'on a très, 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 très longtemps. Et c'était trop bien. C'était trop... Et là, j'aurais jamais dû... C'est quoi? On devait venir avec Sandra ce soir. On devait... C'est vraiment pas du tout intéressant ce que je raconte. C'est des
mais
histoires.
Si,
mais vas-y, mais fais ce que tu veux.
Ouais, j'en
non, mais tu as le droit, Philippe, tu as le droit.
D'accord.
Et donc, je continue l'histoire
Allons-y,
ou pas?
Allons-y, on continue l'histoire.
T'es rigolo, au fait.
Et toi, tu dis que tu observes beaucoup.
Ouais.
Et est-ce... T'en fais quoi tout ça? C'est lié à quelque chose ou c'est juste pour toi pour...
Non, je crois que c'est juste pour moi. En fait, c'est juste une manière, en fait, la manière dont tu vis, tout simplement. Je le fais pas exprès d'observer. Je me dis pas, ah bah tiens, si j'observais. Mais comme j'aime regarder les gens, bah plus tu regardes et plus tu vois, au fait. Je sais plus, j'ai une amie qui me disait, à qui c'est regarder devient voyant, en fait. Mais pas dans le sens de la voyance, même si c'est du tout quelque chose auquel je donne du crédit. C'est pas la question, parce qu'il y a des gens qui voient. Je le sais, au fait, qu'il y a des gens qui voient. Il y a des gens qui sont branchés à des canaux qui nous paraissent, nous, invisibles, qui nous paraissent inexistants ou... un peu, on pourrait même dire chez père ou je sais pas quoi, truc muche, mais en réalité, il y a des personnes absolument sérieuses et d'autant plus centrées, en place, ancrées que d'autres, et qui se branchent à des canaux, et à travers ces canaux-là, qui captent et qui savent les choses, et à qui sait regarder, bah, qui sait voir. Et toi, attends, et toi, parle-moi toi un petit peu, au fait, maintenant, toi, Philippe.
Ouais.